Donc c'est une causerie parmi d'autres dans un cycle entier et le sujet en lui-même tel que vous l'avez en titre sur le dossier qui vous a été remis, le sujet lui-même est tellement vaste que il ne pourra absolument pas être épuisé par cette causerie ce soir, faut être honnête. Et ça supposerait encore d'autres approfondissements que je n'ai pas eu le temps de faire, parce que quand on est curé paroisse, on est multitâche, si j'ose dire, et donc on travaille un peu comme on peut. Alors, on va, dans un premier temps, je vais donc essayer de cibler la problématique de laquelle je pars personnellement pour répondre à la question, s'agit-il de réalité surnaturelle ou bien s'agit-il uniquement de réalité paranormale? Voire, troisième question, s'agit-il de réalité diabolique aussi, hein? Voilà. Donc c'est une tentative de discernement qui se situe à l'intérieur de la foi. Et je vais proposer, pour démarrer, trois lieux spécifiques pour en montrer la nécessité de cette tentative de discernement. Le premier lieu, depuis les débuts de l'Église, les charismes existent. Et depuis 50 ans, certains d'entre eux sont réapparus massivement, comme vous le savez. Et ce sont ceux qui sont mentionnés dans les Actes des Apôtres, énoncés par saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Et donc c'est ce courant de réveil qui s'appelle le renouveau charismatique. À l'intérieur de ce courant, de nombreuses personnes ont fait l'expérience d'accueillir et d'exercer les charismes. Et saint Paul dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais vérifiez tout, et ce qui est bon, retenez-le. Donc saint Paul encourage, mais il appelle aussi au discernement, vérifiez ce qui est bon, retenez-le. S'il faut retenir ce qui est bon, ça veut dire donc que dans l'exercice des charismes, il peut y avoir aussi un certain nombre de choses plus délicates, de choses moins bonnes. Et il est vrai qu'à travers les vagues successives du renouveau charismatique, on a assisté à une certaine mainmise sur les charismes qui a été source de déviance. Alors, ce n'est pas le propos de ce soir d'analyser en profondeur cette question, mais la question se pose de toute façon quand il y a exercice d'un charisme. Est-ce que ce qui se passe, ce qui est dit, ce qui est fait, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du psychisme humain? Voir est-ce que c'est contaminé par des réalités occultes. En disant ça, je pense au charisme de la prophétie, je pense au charisme de guérison, le charisme de repos dans l'esprit qui est assez démonstratif. Est-ce que tout ça provient d'une source pure, directement du Saint-Esprit, ou bien est-ce que ça peut être pollué par trop d'éléments du psychisme humain ou contaminé carrément par des réalités occultes? Donc voilà une première problématique, c'est-à-dire que cette question du discernement se pose dans ce courant spirituel de façon forte, évidemment. Une deuxième situation, si vous voulez, depuis toujours dans l'Église, des personnes prétendent avoir des révélations privées qui proviennent directement d'Istelle, de Jésus, de la Vierge Marie. Alors dans certains cas, l'Église fait un travail d'appréciation, de discernement, des messages qui sont transmis. Dans la plupart des cas, ça finit par être mis de côté, mais dans un certain nombre de cas, on aboutit à une reconnaissance officielle, voire même à l'établissement d'une fête liturgique dans le missel romain. Il y a au moins deux cas, pour moi, qui me semblent frappants. C'est par exemple Marguerite Marie à la Coque, excusez du nom, mais c'est ainsi qu'elle s'appelait, à Paray-le-Monial. Avec les révélations de Jésus sur son Sacré-Cœur, ça a donc donné naissance à tout un courant spirituel et aussi à une fête liturgique, la fête du Sacré-Cœur, qui a rang de solennité dans le missel romain pour l'Église universelle, donc à partir d'une révélation privée. Et un deuxième cas, c'est donc plus récemment, Sœur Faustine Kowalska, qui avait des révélations sur la divine miséricorde et. Ça a donné lieu à la fête de la Divine Miséricorde le deuxième dimanche de Pâques, comme vous savez, hein. Donc ces deux révélations privées sont allées jusqu'à ce processus de reconnaissance officielle. Mais en fait, il y a vraiment une floraison absolument gigantesque de publications, de conférences, de revues qui font état de messages reçus d'en haut. Et tout ça est mis allègrement à la disposition du public à travers des revues, notamment, sans aucun discernement. C'est aussi le lieu de très grandes malversations, car les critères d'un véritable discernement sont très très peu appliqués, et il en résulte à l'intérieur de l'Église, du peuple de Dieu dans son ensemble, une sorte de pente savonneuse de crédulité. Et je pense que les chrétiens, parce qu'ils sont habitués à poser l'acte de foi, sont peut-être plus exposés que d'autres à prendre cette pente savonneuse de la crédulité, c'est-à-dire qui déconnecte la foi de la raison, au fond, et qui est prête à gober un peu n'importe quoi. Confondre l'acte de foi objectif en des réalités qui, par ailleurs, sont soigneusement passées au tamis de l'analyse critique de la raison, et puis la crédulité qui consiste à accorder crédit à toutes sortes de messages pourvu qu'ils soient étiquetés spirituels, divins, ça devient vraiment monnaie courante actuellement. Et donc, il y a besoin, à frais nouveaux, je dirais, effectivement, de faire un petit peu ce qu'on va faire ce soir, de donner un certain nombre de critères de discernement. Dans certains cas, il y a des moyens pour recueillir les messages, pour transmettre les messages qui sont directement repérables comme provenant d'une origine occulte. En disant ça, je pense à l'écriture automatique ou encore à la sensibilité médiumnique. C'est directement occulte. Mais la plupart du temps, il est impossible de discerner facilement l'origine de telle ou telle révélation. C'est pour ça qu'il y a une sorte de flou artistique. Et le spectre, quand on balaye l'ensemble des propositions qu'on a sous les yeux, ça peut aller des pieuses pensées, qu'on met par écrit, jusqu'à des compositions extrêmement élaborées et fabriquées de toutes pièces qu'on fait passer sous le nom de Jésus. Voilà. Donc il faut faire une étude approfondie des messages et puis autant que possible avoir aussi une connaissance des personnes qui sont les récipiendaires et pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Bon, voilà un deuxième domaine, si vous voulez, que j'appellerais peut-être pour faire court le domaine apparitionniste, mais qui a un impact non négligeable à mon avis sur la vie de l'Église, hein, parce qu'il y a quand même de bons chrétiens qui sont abonnés à ces revues et qui les lisent habituellement. Troisième domaine, troisième problématique, car ces trois problématiques s'entremêlent, c'est que depuis toujours, deux domaines de réalité occulte sont florissants. Il y a celui de la fausse guérison et celui de la fausse connaissance. Celui de la fausse guérison, c'est donc le fait que de très nombreuses personnes demandent le service d'un soulagement de leur souffrance à des gens dont ils pensent qu'ils ont un don venant de Dieu, mais qui en fait se révèle être un pouvoir occulte, un don occulte. Par exemple, la conjuration magique des maladies, en particulier les brûlures, etc., etc., mais aussi le magnétisme guérisseur, sont deux domaines où la plupart des chrétiens, y compris les prêtres, ça on rejoint la question que vous posiez, baignent dans une très grande confusion. Il faut savoir aussi que les thérapies alternatives et les propositions de bien-être, qui sont multiples maintenant, peuvent être instrumentalisées par ces réalités occultes de la fausse guérison. Alors, si vous pouvez avoir d'autres opinions que celles que je suis en train d'émettre, hein, on en discutera à la fin, si vous voulez, pour éviter de s'interrompre. Le deuxième domaine, c'est celui de la fausse connaissance des choses cachées, concernant la vie des personnes, la vie du monde. Ça se révèle être de la divination, de la médiumnité occulte, alors que la plupart des personnes pensent qu'il s'agit de prophéties ou de psychologie très affinée. Ajoutez à cela la profusion d'anges, de guides spirituels, d'esprits, d'âmes errantes, puisqu'il y a un nouveau métier qui est apparu qui s'appelle le passeur d'âmes, on en parlera. Dont on prétend recevoir des lumières dites spirituelles, bien nous naviguons en pleine confusion. Donc, on va essayer de proposer ce soir quelques critères de discernement, si vous voulez. Un deuxième point, ce sera, mais on ne va pas le lire parce que ça va être trop long, des mises en situation actuelle concrètes, très concrètes. J'en ai déjà parlé l'an dernier dans un autre exposé, mais je vais vous en donner un. Deux, crois au moins 3 ou 4, hein, de situations actuelles qui doivent donner lieu effectivement à un discernement assez pointu pour arriver à savoir de quoi il s'agit exactement. Vous avez une personne qui s'appelle Vasula Riden et qui a publié de nombreux volumes qui ont été rassemblés en un gros livre qui ressemble dans son édition d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à la Bible. C'est assez curieux, avec même un titre doré, on croirait vraiment avoir une Bible en main. Et elle prétend avoir des messages de Jésus, et Jésus lui parle par écriture automatique. Alors je vous ai mis en petites lettres un historique, ça va être trop long à lire ce soir, mais chez vous, si vous souhaitez approfondir, vous pourrez regarder cela de plus près. Hein. On peut peut-être, oui, regarder plutôt en haut à droite, la deuxième colonne. À propos du phénomène d'écriture automatique, elle affirme ceci: j'ai senti dans tout mon corps comme de l'électricité qui sortait de mes doigts et surtout de ma main droite. Il me semblait que tout cela était comme collé. Le crayon ne se détachait pas de mes doigts, même si je voulais m'en débarrasser, et je ne pouvais pas le soulever. Je ne pouvais plus ouvrir ma main. Et de nouveau, la feuille devenait comme un aimant. C'était comme si ma main était collée à la feuille, comme si elle avait pesé 100 kilos. Je ne pouvais plus la soulever. D'un seul coup, une force invisible a poussé ma main. Je n'ai pas eu peur, je ne sais pas pourquoi. Et alors, j'ai abandonné ma main pour voir ce qui allait arriver. Et alors sont survenus des mots. Ce n'était plus mon écriture, et il disait: je suis ton ange, je m'appelle Dan. Ce fut vite remplacé par Jésus-Christ, par le Père, par la Vierge, par d'autres saints. Pourquoi pas ? Alors c'est quand même très très net, si vous voulez, dans la description. C'est très net. Alors vous direz, ce n'est qu'un seul passage, assez court. Mais voilà. Alors si on va chercher une définition de l'écriture automatique, vous avez cette définition prise dans l'encyclopédie Wikipédia, qui montre bien à travers les trois mots que j'ai soulignés que l'écriture automatique peut être utilisée par les psychologues, les parapsychologues et les spirites. C'est intéressant. Hein. L'écriture automatique est un procédé utilisé en médiumnité, un esprit utilisant la main du médium pour communiquer avec le monde physique. Ce terme désigne en fait le genre d'écriture inconsciente, souvent utilisé par les psychologues eux-mêmes comme technique libératoire, qui permet de faire émerger rêves, désirs de l'inconscient. Les psychologues limitent l'écriture automatique à l'alternance des personnalités stratifiées communes à tous, ne se manifestant que sous certaines conditions. Les parapsychologues envisagent avec cette technique l'intervention du paranormal comme effet de la dissociation psychique du sujet, introduit ainsi dans une nouvelle dimension. Les spirites, eux, placent l'écriture automatique parmi les moyens de communication avec des entités désincarnées de différents niveaux moraux. Ceci est contrôlable par l'étude du niveau du message obtenu. Il est certain que le psychologue, le parapsychologue et le spirite ont tous trois de bonnes raisons pour adopter cette méthode. Donc il y a une sorte de confusion entre un phénomène parapsychologique, voire spirit, et un don occulte. Confusion donc avec la véritable inspiration divine. Parce qu'on dit c'est inspiré par Dieu. Confusion avec la véritable inspiration divine. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration divine ? C'est important peut-être de recourir au Concile Vatican II, qui dans la Constitution sur la parole de Dieu de 1965, Dei Verbum, traite de l'inspiration des saintes écritures, de la Bible, donc, de cette façon. Les réalités divinement révélées, qui dans la sainte écriture sont contenues et exposées par écrit, ont été consignées sous le souffle de l'Esprit Saint. En effet, les livres entiers, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, la Sainte Mère Église, de par la foi apostolique, les tient pour sacrés et canoniques, du fait que rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, ils ont Dieu comme auteur. et ont été transmis à l'Église comme telles. Mais pour composer les livres saints, Dieu a choisi des hommes qu'il a employés eux-mêmes usant de leurs facultés et de leurs forces propres. De sorte que, agissant lui-même en eux et par eux, ils transmettent par écrit en véritables auteurs tout et cela seulement que lui-même voulait. Tout est pesé là-dedans. On sent bien que tout est pesé. Donc Dieu a choisi des hommes, mais ils respectent leurs facultés. Ils agissent en véritables auteurs. Donc puisque tout ce que les auteurs inspirés ou hagiographes affirment peut être tenu comme affirmé par l'Esprit Saint, il s'ensuit qu'il faut confesser que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, en vue de notre salut, a voulu consigner dans les saintes lettres. C'est pourquoi toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Mais quand on dit inspirée de Dieu, ça ne veut pas dire précisément qu'il faut prendre au pied de la lettre les représentations que vous avez sur les tableaux où l'on voit un ange en train de souffler à l'oreille de saint Matthieu, qui est en train d'écrire ce qui concerne son évangile. Ou bien imaginez que saint Luc a eu sa main qui brusquement s'est mise à écrire quelque chose qui serait dicté par Dieu lui-même. C'est la conception des musulmans par rapport au Coran, qui pour eux c'est un livre dicté par Dieu, écrit par Dieu, tombé directement d'en haut. Ici, on nous dit, dans le Concile, que l'inspiration divine des Saintes Écritures respecte les évangélistes et les auteurs des livres saints comme de véritables auteurs, donc avec leur style, leur psychisme, leur prisme, etc. etc. Voilà. Donc, un critère de discernement qui est assez simple à appliquer. Mais quelquefois, quand les gens sont accros, finalement, à ce type de révélation, ils ne veulent pas entendre. Et parce qu'ils y trouvent, au fond, quelque nourriture spirituelle qui peut les aider à certains moments. C'est tellement mélangé. Il n'y a pas que du mauvais, bien évidemment. C'est tellement mélangé. Un deuxième exemple, à travers deux noms, le petit Arnaud et puis Jean, messager de la lumière. C'est le cas de parents qui communiquent avec leurs enfants décédés. Alors vous direz, ça n'arrive pas à tout le monde, ça c'est sûr. Et puis en même temps, ce sont des cercles qui se développent et font une certaine publicité. Alors il y a un premier cas, Nicole et Paul Gourvenec, qui ont publié 5 volumes, s'il vous plaît, 5 livres, intitulés « Vers le soleil de Dieu », livre d'échange avec leur fils Arnaud. Et puis un sixième livre qui s'appelle « Dealer Mammon ». Et comme elle avait croisé mon chemin il y a quelques années, j'avais fait une recension de son livre. Et elle doit être sur Internet, je pense. Et donc, on y retrouve exactement la même chose. Lisez par exemple le paragraphe qui suit. Tout à coup, Paul, assis en face de moi sur le divan, l'air abasourdi, prononce ces mots incroyables. Arnaud me dit « Fais une lettre à ma mamoun ». Aussi surprenant que cela paraisse, je n'ai pas hésité une seconde, réagissant immédiatement. C'est Arnaud, va écrire. Et Paul est parti vers son bureau, calme mais pas du tout convaincu, m'a-t-il avoué ensuite. Quelques instants plus tard, il revient tenant un papier où il a transcrit un dialogue de son écriture habituelle, simplement très étiré. Il est toujours aussi paisible et surpris par ce qui lui est arrivé et qui pour moi ne fait aucun doute. Donc on voit que la maman a elle-même plutôt une connivence avec ces choses-là déjà. Mais là, c'est son mari qui sert de vecteur à l'écriture automatique. Et vous voyez, après, elle va dire, il y avait là quelque chose d'extravagant qui dépassait notre entendement, car nous savions bien que ce corps d'Arnaud avait été déposé dans sa tombe. Comment pouvait-il s'exprimer, puisqu'il ne disposait d'aucun support matériel permettant la communication, comme dans la TCI, transcommunication instrumentale, donc à travers des bandes magnétiques ou des choses, la radio ou des choses comme ça. Ni bien entendu ne bénéficiait d'aucun procédé spirit. Ah, ça c'est pas démontré. Cependant, il est indéniable que Paul recevait bien des messages provenant de la pensée d'Arnaud, quotidiennement au début, puis tous les 2 ou 3 jours, à des moments variables, toujours inattendus. Il écrivait très vite, sans exaltation égale à lui-même, etc. etc. Donc ce type de communication ici est assimilé à une relation spirituelle provenant d'un défunt au ciel. Là, on est vraiment en pleine confusion. Il s'agit de spiritisme. Car toute communication prétendue avec les défunts, c'est du spiritisme. On ne communique pas avec les morts. Il n'y a aucune communication physique. C'est impossible. En revanche, on peut communiquer avec les esprits diaboliques. C'est ce qu'on appelle le spiritisme, quelque forme qu'il relève, que ce soit la table Ouija, que ce soit une table alphabétique, que ce soit ce type de communication par écriture automatique, que ce soit une locution directe même, où la personne prétend qu'un esprit parle, qu'une personne parle à travers sa bouche. Il s'agit toujours de spiritisme. Alors malheureusement, pour moi, le père François Brune, qui cherche ce type de communication sur des supports médiatiques, se fourvoie totalement dans cette question. Totalement.
Quand il est accompagné par Chauvin, quand il écrit avec Chauvin, et des connaissances quand même qui correspondent aussi à certaines réalités. Enfin, je veux dire, c'est moi ce qui m'ennuie dans l'Église catholique, c'est que c'est peu explicité. Oui. Quand vous dites qu'il y a des choses qui sont impossibles, on est là, bon, oui, c'est pas possible, mais bon, voilà, vous voyez. Mm-hmm. Alors donc, on recherche autrement.
Alors voici par exemple un prêtre qui a publié un livre qui s'appelle L'Église au défi du spiritisme, qui écrit ceci: il faut comprendre que ni les moyens basiques ni les moyens high-tech ne satisfont les esprits du spiritisme. Souvenons-nous que leur but est l'infestation corporelle pour déstructurer l'homme dans son unité corps-âme. Très vite donc, ils proposeront ou imposeront une communication directe de l'intérieur. Les moyens de communication spirit ne sont en tout cas jamais ce que Dieu propose, les sacrements, l'oraison, jamais non plus, et c'est là le discernement le plus simple et radical, un esprit communicant n'acceptera de confesser la foi catholique en l'incarnation du Verbe, en la résurrection de la chair, au pardon sacramentel des péchés ou en l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, en l'enfer, le purgatoire, ni de se mettre à genoux devant Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et lisez sous la plume d'Alan Kardec, qui est quand même le pape du spiritisme, qui est enterré au cimetière du Père Lachaise. Les communications occultes ont lieu par l'influence bonne ou mauvaise qu'ils exercent sur nous à notre insu. Les esprits qu'ils exercent sur nous à notre insu. Les communications ostensibles ont lieu au moyen de l'écriture, de la parole ou autres manifestations matérielles, le plus souvent par l'intermédiaire des médiums, qui leur servent d'instrument. Les esprits se manifestent spontanément ou sur évocation. Le fondateur du spiritisme qui écrit ça, c'est clair. Il avait l'expérience, lui. Il avait l'expérience. Donc, il dit que ce sont les esprits qui nous influencent et qui utilisent un certain nombre de moyens, mais en fait, ils cherchent souvent effectivement à arriver à la communication la plus directe possible. Si bien qu'une personne qui fera de la divination avec un pendule, on en reparlera, bien vite se laissera le pendule de côté si ça marche, et puis elle aura dans son propre esprit ce qu'elle cherche. Vous avez un autre exemple qui est Robert et Yvette Cara, leur fils Jean. Le 13 décembre 1996, Jean meurt d'une hémorragie interne, il avait 43 ans. Par locution intérieure, il adresse à ses parents des messages d'amour, d'espoir, de bonheur, par lesquels il leur demande de prier pour les défunts. 7 volumes ont été publiés à ce jour, dont le nom est Jean Messager de la Lumière. Heureusement, nous écrivons un peu moins. Jean Messager de la Lumière. Et bon, ben, je ne vais pas lire parce que c'est encore d'autres. Vous regarderez ça chez vous, mais voilà. Ce qui est certain, c'est que quand on épluche les volumes, on est page 4, on voit qu'il y a des erreurs théologiques assez graves. J'en ai collationné quelques-unes que j'ai trouvées dans une autre étude qui a été faite, parce que je n'ai pas lu ces livres-là. Moi, Jean, je vous suis présent et je vous parle. Il est permis à certaines âmes de communiquer avec l'au-delà, dit-il. Ben non, c'est faux. Si l'on parle des âmes du purgatoire, les gens prendront conscience que l'au-delà est si proche de vous, et de cette façon, ils pourront être sauvés. Ben non, la fin ne justifie pas les moyens. Par le chemin de la généalogie, vous parlerez Vous partez à leur rencontre, les ancêtres, pour les laver de leurs péchés. Ben non, c'est pas parce qu'on fait son arbre généalogique qu'on va pardonner nos ancêtres vont être purifiés de leurs péchés. Hein. Etc. etc. Ouais. Donc, quand on voit des erreurs aussi grosses, on voit bien. De toute façon, il suffit d'étudier très très précisément pour voir à certains moments, crac, dépasser un certain nombre de choses qui sont des signatures, quoi. Vous avez un troisième exemple. Donc, on a fait un premier exemple qui était celui-là, un deuxième qui était les messages reçus par des parents qui ont perdu un enfant, un troisième qui est l'affaire qui s'est passée dans le diocèse de Nantes et d'Angers il n'y a pas très longtemps, à partir d'une femme qui s'appelait Marie-Pierre Laure, qui a fondé les Cénacles de Valais, parce que ça se déroulait à Valais, qui est en Loire-Atlantique, mais elle était originaire d'Angers. Et elle prétend avoir des locutions directes de la Vierge Marie, c'est-à-dire la Vierge Marie parle par sa bouche pour commenter les mystères du rosaire, rien de moins. Donc, c'est devenu un phénomène, et les gens se pressaient pour prier. Vous voyez, on priait, bah oui, on priait, des dizaines de chapelets, et surtout pour écouter ce que la Vierge Marie disait par l'intermédiaire de cette personne. Voilà. Donc il y a eu jusqu'à 700 personnes à venir à chaque fois. C'était une fois par mois. Donc il y avait des carentiers qui déboulaient. Et puis imaginez, ça c'est à la fin du paragraphe en petites lettres, Bob Thuot, qui était responsable de l'association qui a été fondue, qui s'appelle. Qui a été fondée, par exemple, pardon, elle a fondu aussi, mais qui s'appelle Ouvre ton cœur, qui s'appelle Ouvre ton cœur. La Vierge Marie intervient directement lors d'extase pendant les cénacles. Et citation dans une interview du Nouvel Observateur, la Vierge Marie nous a demandé d'enregistrer les cénacles et de graver les CD qui partent dans le monde entier. On s'est aperçu en faisant une enquête. Qu'il y avait eu 70 000 CD de gravés, achetés 70 centimes d'euros pièce, revendus 10 euros pièce, montant de l'opération, presque 700 000 euros de bénéfice. Donc c'est quand même intéressant, quoi, comme locution directe, il faut dire. Alors j'avais fait une petite étude à cette époque-là, parce que j'étais à Notre-Dame-du-Chêne, et puis c'était un phénomène que je rencontrais à travers des gens qui fréquentaient le sanctuaire. Et connaissant un peu ces milieux, j'avais vu que Marie-Pierre Laure avait été chauffeur de car dans une association apparitionniste qui baladait les gens dans des lieux d'apparition non reconnus par l'Église. Donc pendant des années, elle s'est promenée sur ces lieux-là, elle a appris le métier, et puis un beau jour. Son patron l'a un peu façonné comme mystique, fausse mystique. Ça se fabrique. Voilà. C'est un cas. Bon, finalement, les évêques d'Angers et de Nantes ont donné un jugement négatif sur la question. Mais les gens ont été vraiment très, très dépités. Ce qui veut dire qu'il y a une très, très grande. C'est le dernier paragraphe de la page 4. Très, très grande crédulité. Porte ouverte à toutes les manipulations et les dérives les plus subtiles ou les plus grossières. Mais il faut toujours essayer de connaître le rapport qu'il peut y avoir entre l'élocution ou parole d'une messagère, d'un messager, à une personne particulière ou une foule, c'est l'élocution, avec le contact qu'elle a pu avoir avec des pratiques occultes, notamment la divination, la médiumnité ou autre. Car il y a souvent un pont entre les deux, un lien problématique. Des phénomènes paranormaux se glissent souvent sous l'habit prophétique. Et le père Laurentin, qui a beaucoup étudié les apparitions mariales non reconnues, là-dessus est d'une crédulité enfantine. Il est parfaitement innocent, mais il ne voit rien venir. Donc on peut lui raconter n'importe quoi. Il s'en rend pas compte. Un quatrième exemple actuel, sur Internet, je reçois l'autre jour un mail d'une personne qui s'appelle Marie Grèze et qui faisait publicité pour ses livres médiumniques écrits par le Christ. S'il vous plaît. Oui? Voilà. Donc je vous ai mis son site internet, le nouveau message du Christ.com. Quatre volumes ici, hein, découvrir Dieu à l'intérieur de soi, le monde invisible, communiquer avec Dieu, les pouvoirs créateurs de l'homme, la parole de Dieu à travers les rêves, l'évolution vers la divinité par des réincarnations à travers les différents règnes. Là, on voit tout de suite qu'on est quand même sur un mode occulte, là. Voilà. C'est vraiment une version nouvel âge de communication spirite par médiumnité. Mais c'est assez croustillant de lire ce qu'elle raconte quand, dans une interview, on lui demande « Pouvez-vous nous parler de vous ?»« Le Christ me demande de faire la synthèse des informations importantes données à l'humanité et de transmettre les demandes urgentes des dieux qui dirigent l'évolution spirituelle sur la Terre. » Je pense être caractérisé par l'amour et la volonté de bien pour toute la création, le service et l'humilité. Je donne ma vie pour faire la volonté du Christ. Je suis marié, j'ai des enfants, des petits-enfants. Je vis comme la majorité des humains, étant très curieuse et ayant envie de comprendre clairement tout ce qui paraissait obscur. J'ai passé beaucoup de temps à apprendre. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre presque tout ce qui m'intéresse. Je suis médecin, j'ai des certificats de psychologie et autres, un diplôme d'acupuncture. J'ai fait une psychanalyse suivant l'école Paul Deal. Je suis compétente en ésotérisme du XXe siècle. Je vois certaines énergies pensantes. Depuis 20 ans, je communique avec mon guide, le Christ, par l'intermédiaire d'un pendule et par l'intuition et la méditation. Par la méditation, tout le monde peut parler avec son guide. J'ai eu des parents merveilleux, j'ai une famille merveilleuse, etc. etc. J'ai écrit 4 livres dictés par le Christ. Boum. Voilà, bon. Etc. etc. Bon, je passe. Hein, mais... Et enfin, pour terminer, un 5e exemple actuel, parce que j'en entends parler à travers des gens que je reçois. Une femme qui s'appelle Patricia Daré, qui est présentatrice à la télévision, et journaliste plutôt à Radio France, pardon. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Un souffle vers l'éternité, publié chez Maurice Lafon. Il doit peut-être y avoir un T à Lafon, hein, en 2012. Donc c'est l'an dernier. Hein. Et donc vous lisez ceci, journaliste à Radio France, mère d'un petit garçon depuis quelques semaines. Patricia Daré mène une vie tout à fait normale dans son Berry natal. Quand une nuit de septembre 95, un curieux événement transforme son existence. Au creux de son oreille, une voix lui ordonne « Lève-toi », on se croirait dans des évangiles, « Lève-toi et prends un papier et écris ». Sans comprendre ce qui lui arrive, Patricia, pourtant effrayée, s'exécute. Soudain, ma main part à toute vitesse. Ce n'est pas mon écriture, les mots se touchent et il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Haletante, la peur au ventre, je griffonne la feuille comme si j'étais prise de convulsion. Au bout de quelques lignes, ma main s'arrête. Je reprends mon souffle et déchiffre le message. À partir de maintenant, tu es en contact avec l'autre dimension. Tu ne le feras pas quand tu voudras, mais quand cela sera nécessaire. Boum. etc., etc. Bon, quand même, c'est intéressant de lire la suite aussi. Qui sont ces voix dont vous parlez et qui vous guident? Aucune idée. Bien dommage, aucune idée. On ne m'a expliqué que très sommairement comment cela fonctionne de l'autre côté. C'est une force extérieure. Mais une chose est sûre, il n'y a pas d'histoire de religion. Il n'y a pas d'histoire de religion dans l'affaire. « Qui êtes-vous ?» leur demandai-je au début. « C'est moi, » répondait l'un. « Qui, moi ? Quel est ton nom ? » insistai-je. « Je ne m'appelle pas, » me rétorquait une voix. « Je ne m'appelle pas. mais qu'importe, puisque tu me reconnais ?» Et c'est vrai, car chaque voix a une énergie différente. Pendant quelque temps, c'est un groupe, et puis tout à coup, ce ne sont plus les mêmes. Il y a comme un renouvellement d'équipe, pour les 3-8. Et qui sont-ils réellement? Jamais nous ne le saurons, tant que nous ne serons pas passés de l'autre côté. Mais ce sont eux qui sont chargés de faire fonctionner ce que nous sommes. Je l'appelle la hiérarchie. C'est inimaginable comme affaire. C'est inimaginable. Donc je vois arriver, moi, des gens qui me disent, une maman qui vient avec sa fille et qui me dit, ma fille va très mal parce qu'elle était vraiment magnétiseur, puis il lui a dit de lire le livre de Patricia Daré, et depuis, bon. Bon. Alors on lui pose la question, mais médium, est-ce un cadeau ou y a-t-il des aspects négatifs? On est des capteurs d'ondes, les bonnes comme les mauvaises. On est ultra sensible, on ressent tout. Il y a par exemple des lieux très chargés, comme des hôtels, et des territoires où je ne peux plus mettre les pieds. J'ai la tête qui tourne, je manque de tomber dans les pommes. Et cela peut parfois être un peu casse-pied. Mais je l'accepte car cela m'offre plus d'avantages que d'inconvénients. Bon. Bon. Donc voilà la poser brièvement des choses qu'on rencontre, si vous voulez. Certaines dans l'église, certaines hors de l'église. Mais il faut savoir. Donc je vais maintenant poser des éléments de discernement.